Bonjour et bienvenue dans Une Heure en Série. Nous allons enfin connaître ce soir 28 décembre la fin du palmarès de ce top 20, les 20 meilleures séries de tous les temps, choisies en majeure partie évidemment par nos chroniqueuses et notre chroniqueur, il en fallait un. Mais on l'aime beaucoup, bien évidemment. Merci. Elles sont presque toutes là autour de la table. Ce soir, Ariane Allard, bonsoir.
Bonsoir Xavier.
Avakaen, bonsoir. Marjolaine Boutet.
Bonsoir.
Isabelle Danaël,
bonsoir.
Christine Haas,
bonsoir.
Et évidemment donc Benoît Lagan.
Bonsoir.
Il manque Marie Sauvion qui n'est pas là avec nous ce soir, mais elle a voté. On a également voté Marie-Annick Rimbaud, notre extraordinaire réalisatrice. La semaine dernière, je l'ai un tout petit peu embêtée, titillée, donc il faut que je me rattrape. Amel Kaldi, la géniale attachée de production. Mais on votait également Muriel Pérez et Thierry Dupin qui sont programmateurs musicaux à Radio France, ainsi que Étienne Bertin, réalisateur sur notre antenne.
Une heure en série, les 20 meilleures séries de tous les temps.
Et comme dans toute bonne série qui se respecte, si vous avez manqué l'épisode précédent, rappelons quand même les séries qui, la semaine dernière, ont déjà remporté les très enviables 10 dernières places, entre guillemets, mais un top 20 de cette envergure, de ce prestige quand même. L'essentiel, c'est d'y être. La 20e meilleure série de tous les temps, d'après vous, c'est Ma Sorcière Bien-Aimée, la 19e Cold Case, la 18e True Detective, Buffy s'est classée 17e, en 16e Les Simpsons, en 15e Columbo, à laquelle Marie Sauvion avait merveilleusement rendu hommage. 14e, La Quatrième Dimension. 13e, Le Bureau des Légendes. 12e, Les Sopranos. Et 11e, une série classe et élégante, comme elle a été merveilleusement défendue par Ava Kaen, à qui ses épithètes vont si bien.
Mais oui, absolument.
Et là, on rentre quand même dans le nerf de la guerre, le vrai sujet.
Tu n'as pas dit le Sex and the City.
J'ai pas dit Sex and the City?
Non.
Eh ben, heureusement que vous suivez. Voilà. Je vous paye pas pour rien. C'est l'essentiel. Et maintenant, qui est 10e du palmarès? Bah allez-y, le micro est ouvert.
Bien évidemment. C'est Urgence.
Et pourquoi vous prenez toujours cette voix
Parce que sur les musiques américaines, de séries américaines, j'ai envie de faire une voix suave comme ça.
Vous voulez pas côté George Clooney,
faire comme ça. Mais en fait, je pourrais vous faire quelque chose. Je pourrais vous faire quelque chose, mais qui serait très visuel. Mais vous pouvez le décrire, c'est ça.
Oui, absolument.
Alors là,
c'est
il vient de se lancer en arrière sur son fauteuil roulant.
Il vient de nous mimer Mark Green dans le générique.
Voilà.
Oh là là, bravo. Alors, Urgence, rappel quand même de petits faits, 15 saisons, 331 épisodes diffusés entre 1994 et 2009. Le résumé, est facile, hein, tout est dans le titre, Urgence, soit le quotidien du service des urgences à l'hôpital Cook County de Chicago, une sorte de docteur Maboule pour de vrai, où les téléspectateurs du monde entier ont appris à poser un cathéter, ont découvert ce qu'étaient les gaz du sang et sont tombés amoureuses du docteur Douglas Ross, alias Georges Clooney. Heureusement que Marie Sauvion n'est pas là, on aurait récupéré une flaque. Dès qu'on parle de Georges Clooney, elle n'existe plus, elle n'est que pamoison. C'est créé par Michael Crichton, qui est également l'auteur de Jurassic Park. C'est quand même le grand écart. Allez, pour le plaisir.
Docteur, quelle quantité a-t-elle vomi?
Environ 200 cc et tout sur le docteur Ross.
Pouvez-vous respirer profondément? Bien, encore une fois. Aucune douleur?
Non.
Bien, et ici?
Ça va.
Appelez le bloc, on veut une salle. Comment est son hématocrite?
23.
Hey, une minute. Plus de peau, elle fait un arrêt cardiaque. Donnez l'heure où c'est arrivé.
8h37.
Passez-moi les palettes, c'est un rythme choquable, on y va. Faut pas mollir, on y va. On dégage. Pas de réponse. Faites une ampoule d'adré et 100 de xylocaïne. Continuez, massez.
4.
Combien?
2 minutes.
Fais un petit effort. Commence à nous rendre nerveux. Allez, on y va. On dégage.
Oui.
C'était un bip.
Alors, je ne m'y connais pas bien, mais je crois que là, il y a un mort quand même. Il y a un bip quand même.
Ça sentait mauvais.
Très superfétatoire. Je pense que là, on va couvrir le corps. Benoît Lagan.
Vous nous la faites comme ça?
Oui, non.
S'il vous plaît. Pas totalement quand même. Alors,
c'est 28 décembre, c'est la fin de l'année. Prenez votre voix suave.
Je suis ravi, Xavier.
Prenez pas la voix suave finalement.
Que Urgence soit dans le top 20. Je suis pas content parce que pour moi, elle aurait dû être en numéro 1, tellement à titre subjectif. C'est pour moi la plus grande série de Téléthon de tous les temps. Pour quelle raison?
C'est bien placé. C'est une participation vraiment active, un peu subliminale, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous a demandé, mon petit.
Donc c'est la meilleure série de tous les temps. Pour quelle raison ? D'abord parce que c'est une série qui a duré très longtemps, qui a duré 15 ans. 15 ans d'habitude hospitalière. Quand on n'aime pas l'univers de l'hôpital comme moi, on est pourtant addict à cette série, semaine après semaine, les dimanches soirs. Ça a vraiment marqué notre temps de téléspectateurs. Ensuite, parce que c'est une série que je trouve, par exemple, le président Macron devrait voir pour voir à quel point le système libéral appliqué au monde de la santé est mauvais. C'est une série des années Clinton qu'il a beaucoup appuyé. C'était une grande série politique. Alors, c'est une série qui a donc duré 15 ans avec tout le problème de la série qui dure 15 ans. C'est qu'au bout d'un certain nombre de saisons, on peut se dire, tiens, mais tel comédien s'en va. George Clooney le premier, mais c'est pas le plus intéressant de la série, donc c'est pas très grave. Mais quand, par exemple, Anthony Edwards, qui joue Mark Green, s'en va...
vous foudroie du regard.
Je vous explique. Non, mais c'est vrai que c'est le personnage par rapport aux autres médecins qui est pas très intéressant. C'est pas le plus intéressant. Il est charismatique, mais c'est pas le plus intéressant. Mais quand, par exemple, Mark Green, l'urgentiste généreux, s'en va, au bout de la 7e saison, là, ça fait un peu plus de mal. Et quand d'autres, comme Benton, aussi s'en vont, alors chaque fois, on se dit, oulala, ça va être compliqué. Tous ces gens-là qui nous ont fait apprécier cet univers sans vent, est-ce qu'on va continuer à aimer ? Et c'est ça la grande force de l'écriture d'urgence, de réussir à nous installer de nouveaux médecins auxquels on va finir par s'attacher au fil des saisons, alors de façon moins forte qu'avec les premiers, mais malgré tout, ça tient. Ce qui fait que quand on va jusqu'au bout et quand on arrive au dernier épisode, qui est pour moi sans doute une des fins les plus réussies de série, parce que c'est la série qui reprend le concept du pilote de départ, c'est-à-dire montrer 24 heures de la vie des urgences, eh bien le dernier épisode rejoue ça avec les nouveaux comédiens et toute la saison ultime fait revenir tous les personnages qu'on a aimés, même les morts, qui reviennent dans un épisode qui est en hommage à Michael Crichton qui venait de décéder cette saison-là. Donc c'est une grande, grande, grande série bien écrite, populaire, et qui nous a appris effectivement à savoir ce que c'était des NFS chimionaux. Enfin, je sais pas toujours, mais je sais qu'on le dit.
Bon, calmez-vous un peu, Benoît, vous frisez la crise cardiaque. Quelqu'un a quelque chose à dire sur George Clooney, le cathéter
Non, la mort de Mark Green, par contre, ouais, ça c'est un grand, grand moment de télévision. Urgence, c'est une série du temps qui passe aussi, c'est une série aussi du deuil, et je crois que c'est la première fois, en tout cas, que j'ai ressenti dans une série ce que c'était que de perdre un personnage auquel on s'est attaché.
Urgence en 10e position, ce qui nous amène maintenant à la série qui occupe la 9e place. C'est très logique,
bien
en
joué.
Fait.
Hein.
Ouh, les costumes.
Un labrador.
Non, alors, vous arrêtez avec la bande-annonce. Vous ne ferez pas carrière, Benoît. Alors, bon, un château, un labrador, des lords, des costumes, des éclairages à faire péter la centrale nucléaire du coin. On a reconnu Downton Abbey. 52 épisodes de 2010 à 2015, soit donc 5 saisons, 2015 moins 2010. D'accord, j'ai vraiment pas les meilleurs. Un film qui vient de sortir, un peu dispensable. Vous aviez tous dit, c'est la fin, raté. Il y en a un nouveau en production.
Évidemment.
Donc voilà, bien évidemment, c'était créé par ITV, par Julian Fellowes, l'auteur de Gosford Park, et du livret de...
Mary Poppins.
Bravo, bien joué. Il y en a qui suivent de temps en temps. Cette série met en scène la vie à Downton Abbey, c'est très facile de s'y retrouver, d'une famille aristocratique anglaise, les Crawley, et de leurs domestiques. Tout commence le jour funeste où sombre le Titanic. Je me prends un peu pour Benoît Lagarde. Le Titanic qui emporte dans les flots l'héritier du titre.
Bienvenue à Downton. Les plateaux à thé sont prêts ?
Oui, Madame Patmore.
Mon cousin Germain et son fils sont très certainement morts.
Comment ? Monsieur Crawley était le cousin et l'héritier du titre de Monsieur le Comte.
Je croyais que c'était Lady Mary l'héritier.
Sois pas idiote, c'est une fille. Les filles ne peuvent pas hériter.
Vous rendez-vous compte que c'est la première fois que nous sommes seuls ? Que faisiez-vous dans les combles avec Marie cet après-midi ?
J'ai donné toute ma vie à Downton. Je suis né ici.
Le prix à payer pour sauver Downton est d'accepter Mathieu Crawley comme héritier. J'ai du mal à croire qu'une femme puisse être forcée à donner toute sa fortune à un cousin éloigné de son mari. Je n'ai pas géré Downton depuis 30 ans pour le voir allouer de fond en comble à un étranger venu de Dieu sait où.
Ariane Allard sur Downton Abbey, moi qui est une série que j'ai adorée, hein. Je me souviens avoir reçu, j'avais commandé le DVD de la première saison et j'étais incapable de ne pas regarder les 6 épisodes
pareil,
d'affilée.
Pareil, moi j'ai pas pu m'arrêter non plus. Alors dans un souci d'efficacité, cher Xavier,
je sens une pique.
J'ai listé 2 raisons pour vous donner envie de voir ou de revoir cette série 100% britannique. Bon, je suis d'accord, c'est pas toujours facile de circonscrire le génie britannique en si peu de temps, mais nous savons tous que ce peuple, ami et voisin, aime les défis, donc je vais essayer de relever moi aussi ce défi. Alors, la première raison, c'est son côté soap-opéra, que je trouve absolument irrésistible, avec ses rebondissements assumés, bien sûr, avec ses rebondissements plus ou moins crédibles, mais on s'en fout, d'autant qu'il n'épargne aucun des protagonistes, que ce soit les protagonistes du haut ou les protagonistes du bas, puisque c'est évidemment construit de cette façon-là et ça circule sans arrêt entre les deux. Donc prison, viol, meurtre, maladie, mort en couche, rien ou presque ne leur est épargné. Et moi, personnellement, j'adore ça. Voilà. Et la deuxième raison, toute simple...
Vous êtes célibataire, rappelez-moi. Oui, d'accord.
La deuxième raison toute simple, ce sont ces comédiens, bien sûr. Lorsque la série a démarré en 2010, Maggie Smith, qui est absolument géniale en comtesse douairière, était alors la comédienne la plus connue de la distribution. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de rôles principaux, ça c'est important à dire, dans Downton Abbey. C'est plutôt un aréopage de rôles second, parfois un peu manichéen, mais qu'on adore, et parce qu'ils sont tous formidablement incarnés par des comédiens britanniques, sauf une américaine. Et je citerai...
Elizabeth McGovern.
Voilà.
Citons toujours cette merveilleuse comédienne.
Mais je vais citer mes 3 chouchous quand même.
Qu'on avait vu dans Ragtime. Oui, mais moi c'est ma chouchou.
D'accord.
Alors, c'est moi qui présente l'émission. J'ai un petit droit de préemption. Voilà.
Bref, je cite quand même Michelle Dockery, qui incarne la très snob Lady Crawley. Hugh Bonneville, qui incarne l'aimable et un peu dépassé Lord Crawley, et Jim Carter, le sourcilleux et indispensable majordome. Je dois dire que moi, ma préférée s'appelle Joanne Froggatt. Je la connaissais pas. C'est elle qui joue la première femme de chambre à qui il arrive bien des malheurs et qui est toujours dans la résilience, que je trouve absolument formidable. Bref, c'est une série à la fois glamour, les costumes sont totalement somptueux, romanesques, jubilatoires et quand même un petit peu nostalgique, faut dire les choses. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une série de gauche, comme le a cité tout à l'heure Marjolaine, pour une autre série. Et donc, je dirais que c'est un must. Et juste pour finir, la reine adore.
Alors, Elisabeth adore.
Alors.
Est-ce qu'il y a quelqu'un pour compléter cette excellente présentation?
Voilà, puisqu'on parle un petit peu des acteurs, moi, ce que j'aime, c'est le face-à-face entre Shirley MacLaine et Maggie Smith, c'est-à-dire les deux belles-mères.
Saison 3.
L'américaine friquée et vulgaire, forcément, et l'autre qui est complètement snob, mais qui a beaucoup moins d'argent. Et il y a une confrontation entre elles deux qui est vraiment très amusante.
Voilà, c'était Downton Abbey à la 9e place. Qui est à la 8e?
Lights! Models, guest list. Just do your best, darling.
Alors on a dérogé, ça n'est pas tout à fait le générique de la série, mais la chanson que les Pet Shop Boys ont composée pour l'une des plus grandes séries britanniques de ces dernières années, Absolutely Fabulous. 5 saisons, 42 épisodes entre 92 et 2004 sur la BBC Two, très irrévérencieuse quand même la BBC Two. Imaginez Abfab sur TF1 ou France 2, on est quand même très loin. Alors une adaptation française horrible a été signée quand même, on rappelle, au cinéma, ainsi qu'un film plus paresseux, mais par les créatrices, donc on était content de les retrouver. C'est Don French et Jennifer Saunders qui interprètent d'ailleurs le rôle d'Edina qui ont créé la série, et Dina dont la meilleure amie est Patty Stone, qu'on aime, qu'on adore et qui est campée merveilleusement par Joanna Lumley. Elles sont garces, odieuses, elles ont 39 ans depuis 20 ans, elles boivent du champagne 22h sur 24, au goulot, bah évidemment on va pas s'emmerder non plus à faire la vaisselle, elles prennent toutes les substances illicites possibles, se tapent des amants qui ont la moitié de leur âge et martyrisent Saffron, la fille d'Edina. Bref, des modèles de vie. Quand je vous dis qu'elles martyrisent Saffron, la preuve, Saffron vient d'accoucher, elle a un enfant, elle a un petit, voilà, un petit malaise après l'accouchement, elle n'est pas bien dans sa peau, son mec ne la regarde pas, et on va écouter comment Patsy et Edina tentent de ne pas du tout la consoler.
Ouh, chérie, tu vas le perdre.
Tu ignores tout de la relation qu'il y a entre lui et moi.
Oui, mais je repère quelqu'un qui va mal et une absence de libido à plus d'un kilomètre, chérie. Et c'était quand la dernière fois que...
Il y a eu pénétration.
C'est comme ça qu'on dit, oui, pénétration, c'était quand? Dans la position du missionnaire.
Il n'est pas question que je parle de ça avec toi.
Oh, reprends-toi, chérie, arrête de te laisser aller, hein, sinon tu vas le perdre.
Il doit déjà se payer des putes de toute façon.
Oh, oui, Les mecs aiment les femmes. Ils ne veulent pas de grosses vaches laitières dans ton genre, chérie. Ce qu'ils veulent, c'est pas un vieux soutif plein de croûtes de lait desséchées. Ils veulent des bonnets c'est fermes et aguichants.
Bien sûr, pas de gros piflasques qui pendouillent.
Oh, tu as même l'odeur repoussante d'un bébé, chérie.
Ils sont le vomirance.
Ouais, je te conseille de faire ce qu'il faut pour qu'au niveau inférieur, tout redevienne comme avant. Oh oui, chérie, de ce côté-là, ça doit être nickel.
Oui, étroit et bien net.
Oui, les mecs tiennent à ce que ce soit joli,
ouais,
chérie.
Le côté porte de saloon, c'est l'horreur, hein, Evie.
Moi, je crois que tout est dit, est-ce qu'il est besoin voilà, d'en rajouter. Voilà, bah, l'humour typiquement british. Alors, on a eu Downton Abbey et Absolutely Fabulous. Joli c'est grand écart, quand même. Hein. Tout est dans le périnée. Alors, c'est un humour très fielleux, vous l'aurez compris, très irrévérencieux, mordant, salutaire, qui venge les femmes des carcans bienséants où elles sont enfermées. Elles ne s'excusent de rien, elles n'ont honte de rien, elles n'ont aucune limite, aucun tabou. Elles sont libérées, délivrées, vipérines. Vive le girl power d'Abfab. On veut toutes et tous être Patsy. On est d'accord.
Oh ben oui.
Ouais, French bitch. Alors... Quelqu'une, peut-être, pour défendre quand même cette série Absolutely Fabulous. Vous avez fait semblant quand même d'être offusqué par le dialogue que nous venons d'entendre, mais vous étiez pliant de Marjolaine.
Non, je trouve que c'est intéressant parce qu'on avait parlé de Sex and the City dans l'émission précédente, et c'est vraiment, on voit encore la supériorité des Britanniques, et en tout cas la précocité des Britanniques dans le fait de donner la parole aux femmes, et je trouve que c'est très bien dans Abfab, ce sont des femmes qui s'assument et qui assument leur désir et leur envie de vivre et de ne pas se soumettre aux dictates de la gentille épouse, etc. Et surtout de ces femmes ménopausées qui doivent disparaître de l'espace public fois qu'elles ne sont plus en âge enfanté, et je trouve ça remarquable.
Et elle débarque en 95. L'une est mariée à un mari qui a fini gay, enfin qui a fini par préférer et assumer sa préférence pour les garçons. Donc nous, maintenant, ça nous semble presque, j'allais dire, l'ADN classique d'une sitcom, mais en 95, c'est extrêmement subversif.
Surtout la manière de traiter sa fille.
Le rejet de
Saffron est quelque chose qu'on n'avait jamais vu.
Moi, ce que j'adore, c'est quand Patty s'endort avec une vingtaine de cigarettes dans la bouche, qu'elle allume dès qu'elle a ouvert un œil le lendemain matin, sans que la coiffure n'ait été abîmée d'une quelconque façon par ce temps de sommeil. And then there were two. Right now we have to stop somewhere. Vous venez d'entendre Then There Were Two de Mark Ronson et Anderson Paak. Cet extrait de la BO des Incognitos, un film d'animation qui est sorti sur vos écrans depuis le 25 décembre.
France Inter, une heure en série, les 20 meilleures séries de tous les temps.
Oh mon Dieu, quel suspense, qui est numéro 7 Alors, à la fois numéro 7 et numéro 6, puisque vous avez reconnu les prémices. Non, mais vous étiez tous là, la bouche béante.
C'est normal, on était prisonniers.
Vous n'aviez pas promis un départ la semaine dernière.
Merci,
n'hésitez pas. Alors, Le Prisonnier, on parlait effectivement de la suprématie, hein, disons les choses telles qu'elles sont, de la série britannique. Bah, voilà, Le Prisonnier la confirme.
Exemple,
une seule et unique saison, c'est la plus brève des séries citées dans le top 20 en 67. Créée, interprétée et mise en scène souvent par Patrick McGowan, on en parlait la semaine dernière à propos de Columbo, un agent secret londonien qui vient de démissionner brutalement de son travail et victime d'un gaz soporifique dans son appartement alors qu'il était en train de faire ses valises. Il se réveille au village, prison à ciel ouvert située sur une île dont il est impossible de s'enfuir, un lieu hors du temps où l'on circule en grand bille, où l'on porte des canotiers, où il n'y a aucun nom, juste des numéros.
Où suis-je ? Au village. Qu'est-ce que vous voulez ? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous ? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous ? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1 ? Vous êtes le numéro 6.
Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
Je crois que Patrick McGowan s'était inspiré du rire de Benoît Lagan, d'ailleurs, pour composer, voilà.
Du Joker.
Son interprétation, absolument. À Vaken, je resterai volontiers prisonnier avec vous sur n'importe quelle île, mais pour l'instant, je vous laisse le soin de nous raconter ce chef-d'œuvre absolu.
Alors,
de la
il y
télé.
Avait cette phrase qui hantait chaque épisode, c'était « Bonjour chez vous », c'était complètement flippant. Alors, c'est une série de science-fiction et d'espionnage qui me fascinait quand j'étais petite et que je regardais avec mes parents, à la fois à la télévision, et on avait cette saison, cette première saison en VHS, et j'ai tout de suite été saisie par cet univers futuriste et froid. Il y avait quelque chose de très, très anxiogène dans la série. Et puis cet homme, voilà, fait prisonnier, on l'a entendu dans l'extrait, qui crie épisode après épisode qu'il n'est pas un numéro, mais un homme libre. Et cette grosse boule blanche qui le poursuivait à chaque fois qu'il essayait de s'enfuir. Et d'ailleurs, ça inspirait une scène parodique à Woody Allen dans Woody et les robots, où c'était pas une grosse boule blanche, mais un saint géant qui poursuivait le héros. Voilà. Bref, c'est une série qui est un cas dans l'histoire de la télévision, qui n'a pas d'équivalent en réalité. Elle est extrêmement avant-gardiste et c'est une vision d'un monde sous emprise, un village voilà complètement endoctriné, et ce personnage de Patrick McGowan qui est la résistance, qui l'incarne, entouré de fous, entouré de paranoïaques ou de gens complètement amorphes. Alors il y a eu un reboot de cette série, une relecture moderne.
Je vous interdis d'en parler.
En 2009, qui avait beaucoup moins d'éclat et beaucoup moins de mystère, donc voilà, je me tais sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que sans Le Prisonnier, il n'y a pas de série, par exemple, comme Westworld, où on sent terriblement l'influence du prisonnier dans cette série. Donc, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, c'est à revoir ou à découvrir d'urgence. C'est un petit bijou, effectivement, de la télévision
britannique. Noël est passé,
mais
le coffret, évidemment, offrez-le-vous. C'est un chef-d'œuvre, une perfection absolue. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Benoît, bien sûr.
Non, mais juste dire que ça fait partie de ces ovnis que la télévision a produit à une époque. Il y avait, voilà, Le Prisonnier, Des Chapeaux Moulants, Les Bottes de Cuir. Il y avait tout ça. Et quand on était téléspectateurs à cette époque et qu'on découvrait ça, on se demandait sur quelle planète on vivait, en réalité. Donc, ça a créé des choses assez étranges. Et quand on le revoit après, effectivement.
Ça fonctionne toujours.
Et ça fonctionne toujours. Ouais. Et on se dit, waouh, mais on était passé à côté d'un chef-d'œuvre parce qu'on était juste pris par l'étrangeté.
C'est un bijou, ouais.
C'est aussi la première fois qu'une série a autant mis en colère ses spectateurs, à tel point que Patrick McGowan a dû quitter le Royaume-Uni parce que il voulait s'en prendre à sa personne. Je ne révèle rien évidemment sur la fin, mais c'est pas du tout une fin de série habituelle.
Et sur la grande boule blanche qu'évoquait Avakaen tout à l'heure, la petite histoire, c'est qu'en fait, ils avaient prévu une machine très sophistiquée, mécanisée, qui devait aller récupérer le pauvre Patrick McGowan sur le bord de la plage quand il essayait de s'enfuir. Elle a pris le sable avant le tournage, donc ils n'ont rien pu en faire. Et ils ont créé de manière comme ça, impromptue, cette boule, qui est peut-être une des choses les plus terrorisantes que j'ai vues enfant à la télévision. Quand j'étais petit, ma mère ne faisait pas son travail. Qui est numéro 6 de ce top 20, des 20 meilleures séries de tous les temps, sélectionnées par les excellents chroniqueurs et chroniqueuses d'une heure en série. On reconnaît tout de suite quand même.
Bah oui.
C'est magnifique.
C'est un magnifique générique, c'est Six Feet Under.
Bravo Isabelle Danel. Six Feet Under, là aussi on est très orphelin, la série n'est plus diffusée et on aimerait bien reprendre un tout petit peu quand même de cette merveilleuse série, 5 saisons, 63 épisodes qui là aussi ont vraiment marqué l'histoire de la télévision de 2001 à 2005, créée par Alan Ball, qui ensuite a travaillé sur True Blood. C'est différent quand même. Et pour quelle petite chaîne discrète qui n'avait pratiquement jamais rien produit, HBO, bien sûr, comme d'hab. La vie quotidienne d'une famille, rien compliqué, la famille, il faut quand même dire les choses, c'est un peu dysfonctionnel, mais quelle famille ne l'est pas, vous me le direz, et qui est à la tête d'une entreprise de pompes funèbres à LA.
Confions son corps à la terre.
On dirait qu'il scelle du pop-corn.
Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Que le Seigneur le bénisse et le garde. Dieu fasse que sa lumière brille sur lui et qu'il lui accorde sa grâce. Que Dieu l'accueille avec bienveillance et lui apporte la paix.
Nat.
Non ! Je refuse d'aseptiser ça encore plus.
Mais c'est le rituel.
Ah ouais ? Eh ben il est nul ton rituel. Ça sert à quoi cette salière, hein ? Hein, à quoi ça sert, ce cercueil hermétique, ce gazon artificiel autour de la tombe? En bonté divine, ça ressemble à de la chirurgie, c'est propre, c'est aseptisé. C'est du business.
Voilà, nous venons d'entendre un extrait donc d'un épisode de Six Feet Under et Isabelle Danel, vous avez tenu à défendre cette série chère à notre cœur.
C'est même le premier épisode en l'occurrence, c'est la mort du père et c'est vraiment le démarrage et la rencontre avec cette famille. Alors la vie, la mort, surtout la mort direz-vous, compte tenu du métier des protagonistes de Six Feet Under, et surtout la vie dirais-je parce que l'écriture précise qui donne à chacun des personnages une humanité débordante, un cynisme matiné d'humour, à moins que ce soit le contraire, et un regard aigu sur le monde qui fait que dès le premier épisode, on est plongé au cœur de cette famille moyenne américaine, peut-être plus névrosée que la moyenne, quoique.
Quoique, hein.
Au fil des saisons et des 63 épisodes, vous l'avez dit Xavier, on avance avec eux sur les chemins du quotidien. Ça parle d'amour, de fidélité, de filiation et d'embaumement, bien sûr. Ça parle de trouver sa place dans une famille et a fortiori en ce monde. C'est limpide et drôle, intelligent et bouleversant. Pour moi, c'est l'étalon or vraiment de la série. Ils n'ont pas gardé cette chose toutes les saisons, mais il y a dans les premières saisons quelque chose d'incroyablement fort qui est que chaque épisode commence par une mort et que ce mort va hanter l'épisode et que la famille va se positionner aussi par rapport à cette mort, par rapport à l'accompagnement avec la famille du décédé, mais par rapport à leurs propres problèmes. Et cette écriture-là, qui dure, je pense, sur 3 saisons au moins, est vraiment absolument incroyable. Et moi, j'avais jamais vu ça, quoi. C'est vraiment quelque chose d'unique en son genre. Alors, la série passe encore, hein, sur OCS. On peut la revoir, la re-revoir, la re-revoir. Mais c'est vraiment, pour moi, la série à défendre.
Je crois qu'Isabelle a raison. Moi, je me souviens, je me suis dit, c'était une très grande série. Et puis il y a eu un début d'épisode où je me suis dit, là on touche à la perfection et au chef-d'œuvre, parce que c'est une audace, parce qu'il faut oser, c'est la mort subite d'un nourrisson en caméra subjective. Et on se dit, s'ils réussissent ce coup-là, toute la série sera réussie. C'est un moment bouleversant avec les yeux du petit garçon ou du petit bébé qui sont en train de se refermer. Moi j'ai jamais vu quelque chose d'aussi poignant que cela à la télévision et d'aussi intelligent. Quelqu'un d'autre sur Ariane ?
Oui, moi c'est une des premières séries que j'ai vues où on m'a parlé aussi d'une minorité qu'on voyait très peu dans les séries, c'est la minorité latino-américaine, et parce que l'assistant de la famille en fait est d'origine, je sais plus ce qu'il est, portoricain ou quoi, et je trouve ça très intéressant parce que du coup c'est deux parcours mine de rien. Évidemment, le parcours de la famille latino est secondaire, mais on arrive à les suivre à travers eux qui sont une famille d'origine visiblement, je dirais, irlandaise. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a un roux flamboyant quand même qui suit l'ensemble de cette famille. Et je trouve ça très intéressant, enfin en tout cas, de voir ça en parallèle. Et ça dit quand même beaucoup de choses sur les États-Unis de cette époque-là.
Bon, là, on a bien ri, on a bien plaisanté les 15 premières séries de ce top 20. Là, on arrive vraiment dans le goulot d'étranglement. C'est du dur. Vous imaginez la responsabilité qui pèse sur nos épaules. On ne peut pas se planter sur les 5 dernières séries. Du coup, on respire un grand coup et on découvre qui est 5e de ce top 20.
Une silhouette.
Générique animé.
Un très bel homme.
Personne n'a du matériel de bondage. C'est magnifique. La musique est sublime. Et évidemment, il y en a un qui se précipite vers le micro. Elle me quitte. La chute. Oui, c'est
le
vrai.
Le vide.
Oui. Le vide. L'appel du néant. Vous avez raison, cher Benoît.
Mad Men.
Merci beaucoup. Mad Men, diffusé entre 2007 et 2015. 7 saisons, 92 épisodes. Il est rare, les séries, on en regarde un premier épisode, c'était le cas de Downton, on se dit, oh là, c'est du très lourd, c'est du très grand et c'est de la série. Il y a vraiment une écriture. Et pourtant, c'est du cinéma, il y a une mise en scène, il y a du travail. C'est créé par Matthew Weiner, qui était producteur sur Les Sopranos, donc. Le mec est quand même plutôt doué. Dans les années 50, le parcours tout en ascension d'un publicitaire au charme et au passé trouble dans une agence new-yorkaise. Sauf que c'est vendu comme une série avec des hommes dans les rôles principaux, mais ça ne parle que des femmes. Et on les entend.
Si tu suis bien mes conseils, tu éviteras les bourdes que j'ai faites au début.
Salut John.
Ça, c'en est une. Je ne sais pas quel but tu t'es fixé, mais vas-y doucement sur le parfum. Et garde toujours une bouteille dans ton tiroir. Monsieur Draper boit du rail. Et tant que tu y es, achète aussi de l'aspirine, des pansements et une aiguille et du fil.
Le rail, c'est du whisky.
Il va falloir que tu te renseignes. Ils te diront que tu es leur secrétaire. Mais le plus souvent, ils veulent que tu fasses office à la fois de mère et de serveuse. Et quelquefois un peu plus. En rentrant, prends un sac en papier et fais 2 trous pour les yeux. Mets-le sur ta tête, déshabille-toi et regarde-toi dans la glace. Fais la liste de tous tes points faibles et de tous tes points forts, sans te mentir.
Je ne mens jamais de toute façon.
Tant mieux pour toi.
Ariane Allard, j'allais dire, c'est une série qui est faite pour vous. C'est-à-dire, derrière les apparences d'une série sur un monde d'hommes, les femmes qui se libèrent, les femmes qui s'émancipent, les femmes qui commencent à prendre leur place, vous qui écrivez dans Cosette. Et en plus, vous avez voté quand même de façon, j'allais dire, très massive pour cette série. Donc, je vous confie le soin de la défendre.
Oui, mais cette place numéro 5, moi, elle me ravit parce que vraiment, je considère que c'est une des plus grandes séries pour moi de l'histoire. On l'a déjà dit pour d'autres, mais là, pour moi, c'est imparable. De l'histoire du petit écran, à mon sens. Voilà. Alors, vous l'avez dit, Xavier, c'est une agence de pub, non pas dans les années 50, mais dans les années 60. Ça commence en 59. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est que ces années 60, c'est vraiment une décennie de bascule. Ça se passe à New York, sur Madison Avenue, qui est un quartier très très chic. Et qu'est-ce qu'on y voit ? D'abord, on y voit des gens fumer, picoler, séduire, vendre et manipuler comme jamais. Essentiellement entre hommes, sauf que, évidemment, ce sont les femmes qui petit à petit vont prendre le pouvoir. En tout cas, affirmer une place qui jusqu'alors leur a été refusée. Et que se passe-t-il ? C'est qu'en dehors, les États-Unis, eux, s'engouffrent dans la société de consommation et de loisirs. Ils jettent les bases, puisque c'est les États-Unis, de l'ultralibéralisme. C'est ça que je trouve très intéressant. Alors, Ad Men, Mad Men, il y a évidemment un jeu de mots, on n'a pas besoin d'être bilingue pour comprendre. Ad Men, en anglais, ça veut dire les hommes de pub, on dirait fils de pub en français. Et Mad Men, c'est les hommes un peu fous, les dingos. De fait, moi je dis que cette série, elle est d'une subtilité incroyable. C'est d'abord un huis clos absolument captivant qui est centré autour d'une figure, Don Draper, qui est un héros ambigu et qui est même pas loin d'être un salaud et qui ne cesse de lutter contre ses fantômes. C'est aussi une chronique passionnante donc de cette décennie qui est à la fois florissante et trompeuse, puisqu'elle est scandée à la fois par l'émancipation des femmes, on y revient et j'y tiens, par le premier pas sur la Lune, par la lutte pour les droits civiques, mais aussi par l'assassinat de JFK ou par la guerre du Vietnam. Voilà. Donc, que nous raconte cette série ? C'est le changement, c'est maintenant. C'est une série d'une élégance incroyable.
Quelqu'un l'a utilisé, ce voilà.
Mais je parle un peu avec des slogans quand même pour rendre hommage à la pub. Et moi, je dis, on ne peut dire qu'amène à Mad Men.
Well done, wow. Mrs. Allard. On a une poignée de secondes pour ajouter quelque chose sur Mad Men.
Tu t'es dit, oui. Remarquable.
Puis le casting est incroyable.
Et ce sens de la mise en scène, cette utilisation du décor de ce bureau,
les costumes,
ces premiers
les toilettes des femmes
ouverts où les femmes sont offertes au regard concupiscent des hommes qui se servent quand même, clairement, c'est remarquablement. Et eux, en revanche, ont droit à des bureaux fermés. Ouais. Il y a quand même énormément de choses qui sont dites à la fois par la mise en scène et par le décor. Donc, grande, grande série.
Zoubi, zoubi, zou. Zoubi zou, zoubi zou.
le bruit des bisous. Dans les buissons, sous le ciel du mois à doux, les amoureux glissent à pas le loup. Comme les oiseaux, ils ont rendez-vous. On entend partout. Zou bisou bisou. Zou bisou bisou. Zou bisou bisou. Zou bisou zou bisou. Mon Dieu qu'ils sont doux. Zou bisou bisou. Mais dites-moi, savez-vous ce que veut dire entre nous?
Interprété Gillian Hills en 1961 et qui illustre une des scènes cultes de la série Mad Men.
France Inter, une heure en série, les 20 meilleures séries de tous les temps.
Là, il n'y a plus que 4 places,
oh là là.
C'est très chaud. Et qui occupe la 4e place de notre top 20?
Mais dès la première note, voilà. Eh oui.
Vous avez tous reconnu, bravo, la musique de ce compositeur.
Angelo Badalamenti.
Qui
absolument
accompagne l'ouverture de Twin Peaks, la série de David Lynch. Alors, il y a 3 saisons. Entre 90 et 91, il y en a 2. On ne comprend rien à partir du 2e épisode. Disons hein, les choses. Mais il y en a une nouvelle en 2017. Là, on comprend rien tout de suite. Hein, comme ça, c'est très très clair.
Mais c'est virtuose.
Mais on adore pour autant. 48 épisodes pour ABC pour les 2 premières saisons et Showtime pour la suite. Alors, je vais me reposer, c'est impossible à résumer. Hein, donc, on va la faire tranquille. Tout ce qu'on sait, c'est que ça se déroule à Twin Peaks, qui est une petite ville, et que tout commence avec la découverte macabre du cadavre de Lara Palmer empaqueté dans un sac plastique.
Bonjour, je voudrais voir le shérif Truman.
Lequel? Vous voulez voir lequel?
Le shérif Truman n'est pas là?
Vous savez lequel vous cherchez? Parce que ça peut faire une différence.
Non, je ne sais pas.
On en a un qui est malade et l'autre qui est à la pêche. Ça peut faire une différence.
Ça concerne l'assurance.
Je suis pas sûre de pouvoir quelque chose pour vous, alors.
Je voudrais voir le shérif Truman. Je vous laisse ma carte, je reviendrai un autre jour.
Merci. Je vais garder la carte. Mais si vous...
Alors, j'ai enduré les foudres de mes petits camarades, j'ai dit Lara Palmer, c'est Laura Palmer. Voilà, un crime, je vais aller me flageller pendant que... Alors, je ne sais pas, Christine Haas, par exemple, vous nous parlez de Twin Peaks. Alors, prenez votre temps, parce que j'adore me flageller, donc... voilà, ne faites pas coup, surtout, hein. Merci.
Non.
Laura,
d'accord.
Laura Palmer.
Laura Palmer. Donc, effectivement, il faut repartir en 1990 pour comprendre à quel point l'étrangeté de cette série est tellement nouvelle à la télévision qu'elle aura vraiment un énorme impact. C'est vrai qu'on est dans la petite ville imaginaire, puisqu'elle est imaginaire de Twin Peaks. La résolution du mystère qui entoure le meurtre de Laura Palmer s'appuie sur les codes du polar et en même temps d'une sorte de construction feuilletonesque. Mais ce qui rend cette série si unique, c'est qu'elle tient autant du mélodrame que du burlesque, autant du surréalisme que de l'horreur. David Lynch, en fait, donne naissance à un monde original qui foisonne de personnages excentriques, mais également de freaks qui peuplent un univers parallèle et fantastique, ce qui fait qu'effectivement, on comprend pas grand-chose. Mais devant nos yeux, ébahi. Une véritable mythologie s'anime, sublimée par la bande originale qu'on vient d'entendre, et qui contribuera à son statut d'œuvre totale. Mmh. Alors, ce jusqu'à son retour en 2017, où la somme des obsessions de son créateur enverra de nouveau, au mieux, hein, balader les codes de la série télé.
Je suis entièrement d'accord. C'est bien de se flageller, là. Oh là, là, là. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un que j'imite à peine autour de ce plateau qui a des réserves sur
juste
un mot pour dire que à la télévision américaine depuis le début des années 80 il y a des expérimentations étonnantes de mélange de genre permanent. On les connaît peu, ces séries, parce qu'elles sont peu passées en France. J'en cite une, c'est par exemple Clair de Lune, que l'on a vu dans le registre de la comédie romantique et policière, qui mélangeait déjà plein de genres.
Donc, Sybil Shepherd,
voilà. Et Bruce Willis.
Et donc, quand arrive Twin Peaks, c'est effectivement l'énième mélange qui va encore plus loin. Le problème, c'est que ça arrive peut-être un peu trop tôt pour les téléspectateurs. C'est ça ma réserve, c'est que ça arrive un peu trop tôt et que c'est un accident industriel qui fait que ça s'arrête très vite sur ABC avant de revenir en 2017. Effectivement, c'était juste ça ma réserve, et qui fait que c'est une très bonne série dans la première saison et qu'ensuite ça commence petit à petit à se dissoudre.
Brièvement, Isabelle.
Il y a aussi l'histoire, le fait que la chaîne a l'histoire de la bûche. Mais le fait que la chaîne a exigé qu'on révèle le meurtrier un peu vite, et que effectivement ça a totalement fait basculer la série ensuite, une fois que ça s'était révélé. Mais moi je voulais dire une chose quand même, c'est une époque où on n'a pas internet, on peut pas récupérer les séries, et moi je suis désolée, je vais parler de moi, je vois le premier épisode et à partir de là je marque dans mon agenda, je bloque mon téléphone et il n'est pas question que je rate les autres épisodes. C'est-à-dire qu'il s'est passé quand même quelque chose là d'extrêmement particulier, quoi. On connaissait David Lynch, ses films, etc. Mais c'est vrai que la série a embarqué quelque chose. Moi, je suis désolée, Benoît, de totalement nouveau, vraiment.
Pour les Français, hein.
Ouais, puis c'était du cinéma à la télévision. France, il a emmené un univers du 7e art à la télévision, ce qui n'avait pas non plus été totalement accompli jusque-là.
David Lynch n'arrive pas à se hisser sur le podium. Hein, il n'en est pas loin, 4e. Du coup, qui lui vole déjà la 3e place? Un canapé,
des amis,
une fontaine et un chat plus qui fait que, voilà, en toute logique, ce sera pour vous, Benoît, dans quelques instants. On a reconnu Friends, la sitcom aux 10 saisons entre 1994 et 2004. 236 épisodes, on s'est fadé quand même, hein. Créé par Martha Kaufman et David Crane pour NBC. Alors, c'est une sitcom enregistrée en public dans 3 décors. 4 au maximum, on est d'accord, racontant la vie amoureuse des professionnels de 6 amis new-yorkais passablement immatures.
Je sentirais tes yeux qui plongent dans mon regard, des yeux qui sauraient me faire comprendre que le moment crucial ne va pas tarder à arriver. Et en même temps, tout doucement, tu m'aurais attiré encore plus près de toi, de façon à ce que je me sente protégée et qu'on fasse corps tous les deux. Et là, on partagerait une sorte d'intimité, et un trouble s'emparerait de nous. Et ce qui doit arriver, arriverait.
Je te remercie. Bonsoir.
Frustration.
Bon, c'est ce qui s'appelle se prendre un vent, et donc nous avons le spécialiste avec nous ce soir.
Merci Xavier.
Smelly Cat, allez Benoît.
Alors Chandler, Joey, Monica, Phoebe, Ross et Rachel, ces fameux 6 amis à New York. Une série entre comédie romantique, sentimentale et comédie de copains. Alors c'est une série qui a vraiment marqué les années 94-2004. Forcément, une série sur les 20-30 ans. C'était assez nouveau. Alors à l'époque, Friends n'est pas la seule aux États-Unis à apparaître autour des 20-30 ans. Il y a d'autres séries qui apparaissent à ce moment-là. Mais pourquoi elles apparaissent à ce moment-là, c'est que la sitcom américaine, enregistrée en public, qui existe depuis longtemps, s'était cantonnée soit aux séries familiales, Madame est servie, Cosby Show, par exemple, mais à partir de ce moment-là, on voit apparaître cette génération qui n'avait pas trop droit de citer. Du coup, à ce moment-là, quand on regarde, nous, à la télévision, si on a 20-30 ans, on a l'impression d'avoir enfin nos amis, les fameux Friends, à l'écran. Ça contribue beaucoup déjà à la réussite. Et ensuite, je citais ces deux exemples de sitcom préalables. Ce que invente Friends, c'est un nouveau rythme au aussi d'humour, des thématiques nouvelles qu'on n'entendait pas dans la bouche de ces personnages de sitcom. Et puis surtout, Friends invente aussi ce qui existait moins dans les sitcoms d'avant, le côté feuilletonnant. C'est-à-dire que ces personnages, ils vont vieillir avec nous. Et il suffit, je vais dire comme urgence, de voir le dernier épisode pour se rendre compte à quel point cette série a marqué. Quand on voit dans ce dernier épisode ces appartements vides,
ses clés.
Et c'est très très difficile, c'est une Posé. Émotion énorme alors qu'il y a juste un appartement vide parce que finalement, ces appartements new-yorkais, on les a habités pendant 10 ans. Et c'est ça la grande force d'une série et c'est une série qui a changé aussi le regard qu'on m'a pu avoir, nous Français, notamment une génération, la génération des 20-30 ans, avec les séries.
Une série qui a quand même mis ses interprètes à l'abri de tout besoin. Mmh. $1 million par épisode, multiplié par 236.
Quelques interprètes,
voilà, hein, bon ouais. D'accord, il y a quelques taxes et quelques impôts, mais quand même... C'est pas mal, Marjolaine.
C'était pas 1 million dès le début, mais bref. ils sont effectivement à l'abri du besoin. C'est une série, oui, qui a permis le vieillissement de ces personnages toujours cassés et très fous. Et je trouve qu'on le sent encore mieux en VO qu'en VF qui aplatit un petit peu les personnalités. Et puis, voilà, ça nous a fait passer 10 ans quand même dans un salon aux murs violets. Et rien que pour ça,
avec une affiche,
c'est un tour de force incroyable.
Avec marqué Jouet, oui, il y a plein de citations, il y a plein de clins d'œil dans cette série, aussi très francophile.
C'était donc Friends qui est sur la 3e place de notre podium, mais alors... qui est sur la 2e place. When you walk through the garden, gotta watch your back. Très beau générique, très belle musique, immense série,
immense série.
Intitulée
The Wire ou sur écoute
en français, voilà absolument. Pour nos amis qui ne parleraient pas comme vous un anglais parfait et fluctuant, 60 épisodes, 5 saisons entre 2002 et 2008, créés par David Simon, qui est actuellement à la tête de Deutsche, pour HBO, donc encore HBO. J'espère qu'ils ne sont pas sur la première place du podium quand même. Créé par David Simon, d'après son propre livre, hein, Baltimore, édité chez Sonatine Livre, un livre d'investigation qu'il avait écrit quand il était journaliste au Baltimore Sun.
L'État appelle Omar Little, votre honneur.
Tantouze.
Jurez-vous solennellement devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité?
Ouais, je le jure.
Indiquez votre nom pour le procès-verbal.
Omar Devon Little.
Monsieur Little, quel âge avez-vous?
29 ans, à peu près.
Et où habitez-vous?
J'ai pas vraiment d'adresse, madame.
Vous êtes sans domicile fixe?
Ah, oh, disons que je circule plutôt.
Et quelle est donc votre profession?
Ma profession?
De quelle façon gagnez-vous votre vie, monsieur Little?
J'arnaque et je dépouille.
Vous...
Je dépouille les dealers de drogue.
Monsieur Little, comment fait-on pour voler des trafiquants de drogue pendant 8 ou 9 ans et être toujours vivant pour en parler?
On vit un jour après l'autre, j'imagine.
The Wire, c'est presque une série documentaire, mais réinventée aussi par la force du cinéma, par le choix d'angles qui justement diffèrent et multiplient les points de vue autour des mêmes histoires. C'est un grand moment de télé, Marjolaine.
Alors c'est la force du documentaire et je voudrais revenir sur l'extrait qu'on entend, c'est ce personnage d'Omar Little qui est le personnage préféré de Barack Obama et de beaucoup d'autres gens, qui est ce Robin des Bois homosexuel et noir donc qui habite le quartier le plus malfamé de Baltimore. Pour beaucoup de sériephiles, The Wire c'est la meilleure série de tous les temps, c'est une série qui a à la fois séduit les intellectuels, il y a eu des séminaires à Nanterre etc. et les banlieues. C'est ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, que beaucoup pensent que c'est la meilleure série de tous les temps, parce que c'est une série qui a cassé tous les codes de la série télé, encore, Twin Peaks elle l'avait fait aussi, mais c'est une série qui n'a pas de personnage principal, qui n'a pas d'épisode à proprement parler, qui n'a parfois même peut-être pas vraiment de trame narrative. On est à la limite du documentaire pour présenter en 5 saisons une ville, Baltimore, à travers le dysfonctionnement de ses institutions, la police, les syndicats, la politique, l'école et la presse. Mais aussi à travers ses habitants, majoritairement noirs. Et c'est la première fois que cette population a été représentée avec une telle diversité. On a déjà parlé d'Omar, évidemment, mais je voudrais évoquer ici Stringer Bell, trafiquant de drogue qui rêve de devenir entrepreneur et qui prend des cours du soir d'économie à l'université du coin. Ou bien Snoop, petit soldat non genré, d'une extrême violence. Ou encore Bubbles et son combat contre l'addiction, qui est une sorte de ligne narrative tout au long de la série et qui est extrêmement émouvant.
Voilà, donc recommandation juste après Noël, mais on a encore un petit peu de sous. Le coffret et le livre paru chez Sonatine qui sont vraiment complémentaires et qui sont absolument passionnants. Il est temps maintenant, dans une anxiété absolue, de découvrir qui, pour vous, est la meilleure série de tous les temps. Je pense que le générique va nous aider à reconnaître.
Composé par Laurie Johnson.
Ouais. Je n'ai payé personne autour de cette table. Vous êtes incorruptible. Mais oui, c'est Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Moi, c'est ma série préférée. C'est mon enfance, c'est mon adolescence. C'est aujourd'hui encore un plaisir tout à fait gourmand auquel je sacrifie 2-3 soirées de mes semaines. 161 épisodes, 7 saisons. 61-69 pour la première partie, puis 2 nouvelles saisons en 77 et en 78 avec Purdy Joanna Lumley, bien sûr. Divine apparition érotique créée par Sidney Newman et Leonard White pour ITV, puis produit par Brian Clements. Disons-le, alors, c'est simple, il est agent secret pour sa très gracieuse majesté, bien évidemment. Elle porte les bottes, mais aussi la culotte, c'est très important. Et ensemble, ils forment le duo le plus iconique, sexy, kinky, invincible de la Grande-Bretagne des années 60, espion de l'Est, savant fou, ancien nazi. Méfiez-vous, vous n'avez aucune chance face à eux.
Vous disiez à propos de Gartowski ?
Bien, il a fait ses bagages et il est reparti derrière le mur et il a claqué la porte derrière lui. Auriez-vous fait autrement ?
Humilié de la sorte devant 10 millions de spectateurs ?
Pas possible d'étouffer l'affaire cette fois-ci.
Cette fois-ci ?
Oh, il y a eu bien d'autres incidents. Il y a eu de la poudre à éternuer au milieu des réceptions. Il y a eu des araignées en plastique dans le potage de l'ambassadeur et quelque chose de tout à fait outrageant dans un lit diplomatique. Oui, plus rien ne semble sacro-saint, même pas la chambre des lords. Un coussin pétomane sur le siège du chancelier. Ils ont failli prendre ça pour un vote de censure.
Et irrévérencieux, vous aurez peut-être reconnu un extrait du Club de l'Enfer, épisode ô combien sulfureux où Emma Peel est en cuir, mais alors en cuir serré quand même. Elle a dû arrêter de respirer pendant une demi-journée quand même pour rentrer là-dedans. Longtemps interdit à la télévision française où il n'était pas question de voir une femme habillée aussi près du corps comme ça, de cuir, de clous et de serpents, alors que nous tous ici, hein, c'est comme ça que nous sortons le samedi soir. Allez, très rapidement, on a une minute pour dire pourquoi Chapeau Melon.
Parce que féministe.
Merci. On est tellement d'accord. C'est vrai qu'elle domine l'homme, c'est très clair. Alors, ça s'atténue un peu avec l'arrivée de Tara King et ça reprendra avec
Purdy. Oui, mais Emma Peel.
Mais Emma Peel met Honor Blackman dans le rôle de la première John Seed Girl.
Série pionnière, la première fois qu'un homme et une femme sont à égalité. Parce que vous disiez féministe, mais ils sont surtout à égalité.
Surtout
et à l'époque,
égalité,
avec eux, des hommes avec des assistantes. Là, ils sont vraiment à égalité.
Ouais, pour la petite histoire, c'est une série qui est créée avec deux hommes dans la première saison. The Avengers, d'où le titre, The Avengers, les Vengeurs. John Seed invente son improbable costume puisqu'ils sont tous les deux habillés pendant 5 épisodes avec des duffel coats. Il dit mais on nous reconnaît pas, je vais mettre un chapeau melon et je vais mettre un parapluie, ça va pas m'aider mais au moins on va me distinguer. Et quand effectivement l'autre acteur part à l'issue de la première saison, il dit mais invitons une femme, mais faisons-la plus forte, plus intelligente que moi. Et ça a été le cas, effectivement, avec les John Seed Girls. Donc, chapeau melon et bottes de cuir. Un court mot?
Non, mais juste pour dire que c'est avec son esthétique et en même temps pop et sexy. C'est vrai que c'est l'une des séries les plus kitsch qu'on ait jamais vues et elle est très, très représentative des années 60.
Ouais. Formidable scénario, quand même.
C'est vraiment le Swing in London pour moi.
Absolument, voilà, nous sommes d'accord. C'est fini, nous venons de vous révéler le top 20, la deuxième partie en tout cas du top 20 des 20 meilleures séries de tous les temps pour nos chroniqueurs et pour une partie de l'équipe qui travaille avec nous. On vous rappelle rapidement que dans ce top 20, on figurait en partant de la place 10 pour arriver à la place 1. Nous avons rappelé Urgence, oui, Downton Abbey, Abfab, Le Prisonnier, Six Feet Under, Mad Men, Twin Peaks, Friends, Wire et Chapeau Melon et bottes de cuir. Votre choix était excellent ainsi que vos prestations et vos interventions. Je crois que je vous réinvite l'année prochaine. Ouf. Une heure en série, c'est fini. Merci vraiment à Isabelle, Benoît, Christine, Marjolaine, Ava et Ariane d'y avoir participé avec votre humour, votre érudition et votre bonne humeur. C'est une émission que l'on retrouve bien évidemment sur le site internet de l'émission en podcast. Vous l'écoutez, vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer des courriers. Évidemment, vous ne serez pas d'accord avec vous, mais c'est la règle du jeu et nous sommes entièrement d'accord. L'émission était réalisée par Marianic Rimbaud, la programmation musicale assurée par Muriel Pérez, préparée avec Amel Kaldi et aujourd'hui à la technique, Arthur Le Breton.